savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéré, Sophie Torlotta.
J'ai toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma, se demande Jean-Paul Belmondo sur notre générique. Eh bien, le cinéma, c'est cet art qui vous permet de ressentir une passion incandescente ou de revivre votre jeunesse. C'est le mariage des contraires, le classicisme et le romantisme, la flamme artistique et l'engagement politique. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
De cinéma, il en est question dans un film formidable, mais provincial, à l'affiche mercredi prochain dans les cinémas. Nous en parlerons avec son réalisateur Jean-Paul Sivérac dans une vingtaine de minutes. Avant cela, nous aurons levé le rideau de la sélection du 71e Festival de Cannes qui ouvrira ses portes et ses fenêtres à des nouveaux venus du monde entier. Nous partirons également à Riyad où s'ouvrira la semaine prochaine la première salle de cinéma dans le royaume. Et puis nous partagerons nos coups de cœur, L'île aux chiens de Wes Anderson et Nico 1988 de Susanna Nicchiarelli. Et voilà, on commence ce tour du monde par Cannes. Ça y est, Elisabeth, fin du suspense ou du supplice chinois. On connaît la sélection du festival de cinéma le plus prestigieux du monde, dont le jury sera présidé cette année par l'actrice Cate Blanchett. Jeudi, Thierry Frémaux, le délégué général du festival, a donné la liste des 18 films en compétition.
Et oui, cette 71e édition se place d'emblée, Sophie, sous le signe du renouveau. Alors, parmi les nouveaux visages de la compétition, on peut signaler la Libanaise Nadine Labaki, l'Iranien Jafar Panahi, l'Égyptien Abou Chouki avec son premier film, un road movie Yomedine, ou encore la Française Eva Husson avec Les Filles du Soleil sur les combattantes kurdes. Alors cette année seront aussi en lice pour la Palme d'Or deux autres Français, Christophe Honoré et Stéphane Brisé, le Suisse Godard, l'Italien Matteo Garrone, l'Iranien Asghar Farhadi, dont le nouveau film avec Penélope Cruz sera projeté en ouverture. Ça s'appelle Everybody Knows.
Paco, mais...
Hace algo, por favor.
¿Qué pasa?
Le ha pasado algo anoche.
Cette édition 2018 marquera aussi le grand retour de Spike Lee sur le tapis rouge avec son acteur Harry Belafonte pour Black Klansman. L'Afrique sera présente hors compétition, le Kenya avec un premier film Rafiki, l'Afrique du Sud avec Les Moissonneurs d'Étienne Kallos, et à signaler aussi un documentaire d'archives sur Nelson Mandela signé Gilles Porte et Nicolas Champeau. Et enfin, les Jedi seront aussi présents sur le tapis rouge avec la projection du nouveau film dérivé de la saga Star Wars Solo, réalisé par Ron Howard, qui sera projeté à Cannes en avant-première 10 jours avant sa sortie parisienne.
You're after something. Is it revenge? Money? Or is it something else?
You look good. A little rough around the edges, but good.
Heard about a job. Big shot.
Voilà, Solo sera à Cannes, mais alors visiblement pas les films de la plateforme de streaming Netflix, hein. Netflix qui a joué le bras de fer avec le festival de Cannes.
Oui, qui retire tous ses films du festival, hein. C'est ce que son patron Ted Sarandos vient d'annoncer. Alors le torchon brûlait déjà depuis pas mal de temps, hein, depuis l'annonce par Thierry Frémaux que tous les films sans sortie en salle ne pourraient pas être en compétition, ce qui d'emblée éliminait Netflix, d'où la réaction de Sarandos qui du coup retire tous ses films, hein, ce qui va priver le festival de quelques titres très attendu, entre autres Roma d'Alfonso Cuarón, Norway de Paul Greengrass, et puis surtout celui qu'attendaient tous les cinéphiles, hein, depuis longtemps, The Other Side of the Wind, qui est un film inachevé de 1972 d'Orson Welles.
Alors on ne sait pas si Cannes va doper les ventes de billets qui atteignent déjà un niveau record, hein, près de 41 milliards de dollars, soit une augmentation de 5% par rapport à 2016.
Et 2016 qui était déjà une année record. Alors ces chiffres exceptionnels, bien sûr, on les doit à des mastodontes hein, comme Les Derniers Jedi, La Belle et la Bête ou encore Wonder Woman.
You will train her harder than any Amazon before her.
Five times harder. 10 times harder.
Never let your guard down. You expect the battle to be.
Pour la première fois, la Chine passe devant les États-Unis en termes de box-office. Un bond de 39%, Sophie, des ventes de billets. Alors avec des succès locaux comme Opération Mer Rouge, Détective Chinatown ou encore Monkey Hunt 2. Enfin, des films qu'on aura sûrement peu d'occasion de voir ailleurs dans le monde qu'en Chine. Quant aux films internationaux, eh bien c'est Black Panther qui rafle la mise avec un box-office de 103 millions de dollars de recettes.
Je crois que j'en peux plus d'avaler ces ordures.
Exact, tu m'enlèves les mots de la bouche.
À Londres, une exposition qui a du chien.
Et qui fait fureur. Hein. Ce sont les décors originaux de L'île aux chiens, le nouveau Wes Anderson, qui sont exposés. Alors, c'est deux stores, une salle d'exposition en plein cœur de Londres qui a eu cette idée de génie apparemment, puisque 3000 personnes ont défilé par jour, plus de 40 000 personnes depuis l'ouverture de l'expo le 23 mars l'ont vu, des files d'attente interminables de plus de 400 personnes. Et puisqu'on est dans les chiffres, Sophie, le Aerial Noodle Shop qui a été reconstitué pour les besoins de l'expo a vendu 3000 bols de nouilles ramen, soit plus de 250 par jour. Et les organisateurs précisent que le chef cuistot est au bord du burn-out.
C'est la rançon du succès. On termine ce tour du monde à Riyad, en Arabie Saoudite. Riyad, où aura lieu mercredi prochain une ouverture historique, celle d'une salle de cinéma. L'Arabie Saoudite a en effet signé un accord avec le groupe américain AMC, permettant l'ouverture de 30 à 40 cinémas dans une quinzaine de villes pour les 5 années à venir. Ça faisait 35 ans que les Saoudiennes, les Saoudiens n'avaient pas eu accès à un lieu dédié au 7e art. Il y avait des salles dans les années 70, mais enfin très peu, et elles ont été interdites lors de la montée au pouvoir de chefs religieux. Alors j'ai pu joindre à Riyad Fahad Al-Yaya, un universitaire, un grand cinéphile, critique également, qui m'a dit sa joie et celle de nombreux Saoudiens.
Beaucoup de Saoudiens sont très contents de cette nouveauté et ils attendent l'ouverture du cinéma. Ils sont vraiment excités à l'idée d'y aller.
Ça fait les gros titres des journaux ?
Oui, on en parle beaucoup dans les journaux, surtout dans les pages culturelles. Et c'est aussi un sujet très discuté sur les réseaux sociaux.
Vous savez quel va être le film projeté pour l'ouverture ?
Oui, c'est Black Panther.
Tell me something. What do you know about Wakanda? It's a third world country.
Textiles, shepherds,
cool outfits, all the front. Explorers have searched for it.
Vous savez combien de sièges il y a dans cette salle de cinéma ? Est-ce que c'est une grosse salle de cinéma ? Et est-ce que vous savez si déjà tous les tickets ont été vendus, pour peut-être pas pour l'ouverture, mais même pour les jours suivants ?
Yeah, there is the seats is almost 620 or something like this.
Oui, c'est une salle de 620 sièges, je crois. Les tickets sont en vente sur Internet. Hommes et femmes peuvent aller au cinéma. Je ne sais pas trop bien pour la soirée d'ouverture, mais sinon, il y a des tickets en vente pour femmes seules, pour hommes seuls ou pour les familles.
Et vous, du coup, vous avez déjà pris vos tickets ? Vous avez hâte d'aller au cinéma ?
Oui, j'adore le cinéma. Quand je suis à l'étranger, je vais beaucoup au cinéma. J'aimerais beaucoup voir Black Panther le premier jour, car c'est un événement historique.
C'est la première véritable salle de cinéma qui ouvre dans le royaume. Mais il y a 30 ans, des films étaient projetés dans les ciné-clubs et des écoles. Mais ce n'étaient pas des salles de cinéma bien équipées.
Et l'attente dans le royaume, elle est forte pourquoi ? Pour voir des films étrangers ou pour voir aussi des films saoudiens ?
We don't have Saudi movies that featured film. We have short films only so far.
Il n'y a pas vraiment de films saoudiens, il y a des courts-métrages pour le moment.
Donc on espère qu'avec ces ouvertures de salles de cinéma, les réalisateurs saoudiens pourront avoir les moyens de produire et réaliser des longs métrages. Ici, les spectateurs aiment voir des films étrangers et suivent la cérémonie des Oscars, par exemple, ou d'autres festivals. La majorité des spectateurs sont intéressés par les films en arabe et principalement les films égyptiens, car c'est l'industrie du monde arabe la plus dynamique. Je pense que les films indiens vont être très populaires ici parce qu'il y a beaucoup de travailleurs indiens, bengalis ou pakistanais en Arabie Saoudite.
Voilà la joie de Fahad Al-Yahya, un universitaire saoudien à Riyad qui attend donc l'ouverture mercredi prochain de la première salle de cinéma. 11 nouveaux films ont débarqué sur les écrans français cette semaine. On sent que Cannes arrive bientôt, la marée reflue. Parmi ces films, signalons surtout le documentaire Fleuve de Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval, l'héroïque Land qui ont filmé la jungle de Calais et son démantèlement.
Et puis Sophie, on en parlait tout à l'heure, votre film de la semaine est pas que le vôtre à lire la presse cinéma, c'est L'île aux chiens de Wes Anderson.
Oui, alors Wes Anderson, est-ce qu'on le présente encore ? C'est un cinéaste américain de 48 ans qui s'est fait connaître du grand public il y a une dizaine d'années avec La vie aquatique, un film avec Bill Murray dans le rôle d'un commandant ressemblant fort à Cousteau. Ses films sont toujours très inventifs et sophistiqués, comme des miniatures taille réelle. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous parliez, Elisabeth, d'une exposition des décors de L'île aux chiens à Londres. Alors, il avait déjà signé un film d'animation, Fantastic Mr. Fox. Il revient avec L'île aux chiens à l'animation image par image, sous toutes ses formes, marionnettes, papier découpé, dessin animé. L'île aux chiens, c'est l'histoire de Cabot déporté sur une île poubelle à la suite d'une épidémie.
L'archipel japonais, dans 20 ans. Le nombre de chiens a atteint des proportions colossales. Une épidémie de grippe canine se répand à travers la ville de Megasaki. Le maire, Monsieur Kobayashi, ordonne des mesures d'urgence et réclame une quarantaine rapide. L'île poubelle devient un lieu d'exil. L'île aux chiens.
Il y a Chief, il y a Boss, Rex et les autres, hein, tous des chiens. Ils côtoient quand même des humains, notamment un jeune garçon de 12 ans, Atari, parti à la recherche de son chien familier, Spot. Tous vont découvrir que le maire de la ville est à l'origine de l'épidémie pour éradiquer totalement la race canine.
Alors, L'île aux chiens, c'est un film d'animation, Sophie, mais pas forcément pour les enfants.
Effectivement, hein, puisque le film parle quand même de thèmes graves, hein, sous ses dehors métaphoriques, déportation, éradication d'une espèce, suicide, trafic d'organes. Aux États-Unis, d'ailleurs, le film a été déconseillé au moins de 13 ans. En France, le film est tout public. L'île aux chiens offre différents niveaux de lecture, l'histoire en elle-même, ses dimensions politiques. Il y a aussi des références esthétiques au cinéma japonais, notamment au film d'Akira Kurosawa ou aux estampes du 19e siècle. L'acteur Liev Schreiber double Spot dans la version originale.
You know, I'm a big Kurosawa fan, so I recognize all of that stuff. I also saw a lot of Wells in there.
Je suis un fan des films de Kurosawa. J'ai donc reconnu les citations. J'ai vu aussi Orson Welles. Quand le maire Kobayashi parle au micro à une assemblée, cela ressemble à une scène de Citizen Kane. Il y a bien sûr toute une lecture politique, les réflexions sur l'immigration, sur un gouvernement totalitaire, sur la survie. La première fois que j'ai vu le film, j'étais admiratif. Wes a une imagination enfantine débordante et incroyable. Il s'est entouré de grands professionnels, les marionnettistes, les animateurs, c'est remarquable. Et puis, arriver à incorporer toutes les références à la culture japonaise, et quand j'ai vu le film la deuxième fois, j'ai été frappé par toute la richesse émotionnelle du scénario et de la réalisation.
L'île aux chiens avec son casting 5 étoiles, hein, là on entendait Liev Schreiber, mais il y a aussi Bill Murray, Scarlett Johansson, Tilda Swinton ou encore Jeff Goldblum.
Ou encore Bryan Cranston, vous savez c'était cet acteur qui s'est fait connaître avec la série Breaking Bad. Bryan Cranston prête sa voix à Chief, le chien errant qui va guider le petit Atari.
It's just your voice that needs to convey the emotion that's necessary on any given time.
C'est votre voix qui doit faire passer les émotions, mais j'ai abordé ce personnage comme tous les autres. Je me suis dit que c'était un chien SDF, un cabot, il est agressif, très péremptoire, il défend son territoire, et comme ce chien ne sait jamais où il va dormir et ce qu'il va manger, il en veut aux autres qui ont été mieux traités que lui. Tout cela est très humain en fait. on a transféré des caractéristiques humaines à ces animaux domestiques. J'ai donc envisagé mon personnage comme un être humain.
Wes Anderson a donc sélectionné des acteurs de premier plan et vous savez, il les a en fait enregistrés d'abord en studio, en solo ou en groupe. Donc il a enregistré d'abord les dialogues avant de procéder à l'animation proprement dite. Brian Cranston.
He's like a conductor of an orchestra.
C'est un chef d'orchestre et chaque acteur est un instrument différent. Il nous dirigeait ainsi et c'est lui qui assure la vision d'ensemble. On s'occupait de notre rôle et lui de la partition finale.
S'il est en vie, il pourrait tout aussi bien être en ce moment même retenu prisonnier, captif.
Quelqu'un mijote quelque chose.
Vous l'adorez ? Le petit pilote.
Alors pour la version française, Sophie, Wes Anderson a tenu à sélectionner lui-même les acteurs.
Oui, c'est un grand cinéphile.
Il fait tout lui-même, hein, de
oui.
toute façon.
Oui, c'est vrai que c'est un control freak et un maniaque du contrôle, mais aussi c'est un grand cinéphile qui connaît bien le cinéma français. Donc pour l'équivalent de Bryan Cranston, Chief, c'est Vincent Lindon. L'alter ego de Spot, Liev Schreiber, c'est Louis Garrel. Wes Anderson a également fait appel à Isabelle Huppert, Daniel Auteuil, Mathieu Amalric ou Léa Seydoux. Et puis Elisabeth, on prend de l'avance sur les sorties de mercredi prochain avec Nico 1988, portrait de l'icône du Velvet Underground.
Oui Nico, cette blonde sublime aux yeux bleus glaciers, cette voix rock avec cette pointe d'accent allemand qui électrisait le Velvet. Dans les années 60, on disait qu'elle était la plus belle femme du monde. Et c'est une jeune cinéaste italienne, Susanna Nicchiarelli, qui a voulu faire un film sur elle avec cette idée assez géniale, je trouve. C'est-à-dire plutôt que de parler de la chanteuse flamboyante du Velvet, eh bien raconter plutôt les trois dernières années de sa vie. Et pour ça, choisir une actrice qui peut chanter Nico, c'est la Suédoise Trine Dirholm.
C'est Nico après Nico. Quand elle était jeune, mannequin, puis chanteuse, elle a toujours été sous la coupe d'autres hommes. Andy Warhol, et puis le Velvet, Lou Reed. Et dans le film, elle cherche pour la première fois de sa vie à être elle-même. Elle se réconcilie avec son fils, elle abandonne la drogue. C'était une femme forte. Elle a pris beaucoup de drogue. Tous ses amis sont morts, mais elle, elle a survécu. Dans le monde du rock, être une femme, ce n'était pas facile. Elle était si belle, c'était la plus belle femme du monde, mais elle n'acceptait pas son image. Et elle l'a détruite parce qu'elle voulait être respectée pour son art et pas pour sa beauté.
And she almost destroyed her beauty to be respected for her art and not her beauty.
You made a big mess tonight.
I got me a band of amateur junkies.
Why don't you replace them?
Yeah, it's not easy to find people who want to play with me. And
voilà, la voix de Trine Dirholm. Est-ce que l'actrice Elisabeth ressemble à Nico?
Mais pas du tout, parce que dans le film, elle est c'est une actrice assez massive, petite, avec une frange, mais une crinière brune. Enfin, physiquement, c'est vraiment l'anti-Nico. Mais elle a une intensité, une forme de présence-absence qui balaie tous les doutes. En fait, voilà, dans le film, c'est une femme qui fuit son passé. Elle vit à Manchester. Elle continue à faire des tournées, Prague, Nuremberg, l'Italie. En fait, Nico 88, c'est le portrait d'une femme qui cherche désespérément à habiter le présent et à ne pas vivre dans son passé du Velvet.
Mais du coup, c'est une icône déchue.
Oui, mais dans le même temps, et c'est ça qui est fort dans le film, c'est l'histoire d'une renaissance, c'est-à-dire d'une femme qui dit qu'elle a toujours détesté être une icône, qu'elle a toujours détesté être un mannequin, de voir s'affamer. On la voit tout le temps, j'allais dire manger, mais on la voit baffrer tout le temps dans le film, manger des plats de spaghettis bolognaise en pleine nuit. C'est aussi une femme tendre qui renoue avec son fils Harry qu'elle n'a pas élevé. Et d'ailleurs, c'est lui, Harry, qui a nourri la cinéaste Susanna Nicchiarelli de tous ces détails qui font que le film sonne juste et nous révèle la face cachée de Nico, la femme derrière la rockstar.
Hey,
Et de tous les biopics de stars, en fait, c'est sûrement celui qui a eu le plus petit budget, mais certainement c'est l'un des biopics, l'un des meilleurs biopics, le plus sensible, le plus inventif, le plus émouvant que j'ai jamais vu. C'est vraiment, enfin, je le recommande vraiment, Sophie. C'est un film formidable.
Je sais, mais j'ai très très envie de le voir maintenant. Nico, 1988, un film de Susanna Nicchiarelli en salle mercredi prochain. Un peu de musique, un peu de Nico avant de retrouver nos invités pour le film Mes Provinciales.
A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.
Vous êtes bien sûr RFI à l'écoute de tous les cinémas du monde. Viennent de nous rejoindre en studio un réalisateur, Jean-Paul Sivérac, et un des jeunes acteurs de son film, Gonzague van Berwesles, pour un film magnifique, un vrai coup de cœur qui sera en salle dans quelques jours. Il s'agit de Mes Provinciales. Un jeune homme, Étienne, quitte Lyon pour monter suivre des études de cinéma à Paris. Il rencontre Mathias et Jean-Noël, se retrouve en colocation avec une étudiante aux Beaux-Arts, puis une activiste politique.
Nous vivions alors dans une époque étrange. C'était un mélange d'activité, d'hésitation et de paresse, d'utopie brillante, d'aspirations philosophiques ou religieuses, d'enthousiasme vague, mêlé de certains instincts de renaissance.
Je m'en fous des diplômes. Je préfère l'action, je me sens plus utile. Vu l'état du monde, il faut bien faire quelque chose, non? Et vous, vous faites quoi pour ça?
Des films.
Tu crois ça? Tu crois que les films peuvent sauver la planète?
Action. Jean-Paul Sivérac, bonjour.
Bonjour.
Gonzague van Berwesles, bonjour.
Bonjour.
Mes Provinciales, c'est un film d'initiation, un film d'éducation qui suit des jeunes d'aujourd'hui. Et est-ce que c'est aussi un film avec une large part autobiographique, Jean-Paul Sivérac? Vous qui, comme Étienne, avez quitté une ville de province, bon, Étienne, c'est Lyon, vous, Saint-Étienne, et vous avez, comme Étienne, suivi des études de cinéma à Paris?
C'est ça, je suis venu à Paris pour faire les études de cinéma à la FEMIS. Ici, il s'agit de Paris 8. Et donc, je suis venu à Paris sans connaître je crois que je connaissais une seule personne à Paris quand je suis arrivé.
Et sans connaître le milieu du cinéma non
et
plus.
Sans connaître du tout le milieu du cinéma. Et j'ai été surpris de voir que parmi mes collègues de la FEMIS, on était largement provinciaux. Voilà, largement. Donc, et d'ailleurs, c'est toujours le cas. Et aussi à Paris 8. Il y a énormément de provinciaux qui viennent à Paris. Bon, voilà, c'est à Paris que ça se passe pour le cinéma, donc les gens viennent à Paris.
Donc vous êtes souvenu, inspiré de votre jeunesse?
Oui, enfin, disons qu'il y a un mélange. C'est-à-dire qu'il y a des souvenirs de ce qui s'est passé quand j'avais 22 ans, quand j'étais étudiant. Mais il y a aussi des choses qui se sont passées après. C'est-à-dire quand j'étais professeur de cinéma, puisque j'enseigne le cinéma depuis une vingtaine d'années. Donc je suis au contact avec des étudiants tout le temps. Je vis un peu avec eux. Donc les étudiants, de cinéma, je les connais bien. Voilà. J'ai beaucoup pratiqué.
Donc il y a beaucoup de discussions passionnées, même des disputes entre ces étudiants. Gonzague, vous interprétez Jean-Noël, qui va devenir un ami très proche du personnage d'Étienne. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous, les comédiens, vous avez nourri de vos réflexions les dialogues, ou c'était déjà très écrit?
Jean-Paul avait écrit tous les scénarios. Et non, c'était très, très écrit, mais on a participé à fignoler quelque part avec des répétitions, des dialogues dramaturgiques, comme on dit, comme on fait au théâtre, un mois et demi avant le tournage. Et il a modifié certaines idées que certains d'entre nous avaient, mais c'était déjà très, très riche dans le scénario de base.
Parce que ces jeunes gens, je le disais, ils ont une haute idée du cinéma. C'est presque, on a presque l'impression que pour eux, le cinéma est une, enfin, je sais pas si c'est une religion, mais il y a de l'ordre du sacré, en fait, dans leur réflexion.
Disons que pour ces étudiants-là, le cinéma est une question existentielle. C'est-à-dire que c'est se mesurer au cinéma, c'est se mesurer aussi à la vie. C'est en termes de vocation. Donc c'est très fort. Peut-être pas de religion, mais effectivement, il y a quelque chose de sacré au sens où l'existence est sacrée et qu'il faut faire des choix à un moment donné. Et le problème, évidemment, pour eux, est d'être à la hauteur de ce choix-là. Enfin, voilà, c'est ça qui est, je crois que le film montre la difficulté à rester, à être, même simplement, et à la hauteur du cinéma qu'on pourrait vouloir, désirer, imaginer.
C'est ça, Étienne le dit à un moment, et comment on peut... Puis-je seulement penser à être à la hauteur de Mizoguchi, Fassbinder, Minelli? Et il y a une ambiance très flottante, en fait, entre ces étudiants. C'est-à-dire que c'est à la fois, il y a beaucoup d'amitié, il y a des histoires d'amour, et puis il y a un peu de rivalité, il y a beaucoup d'inquiétude. Et est-ce que c'était ça que vous ressentiez quand vous étiez à la FEMIS avec Laetitia Masson, Orso Mirette, Yves Comment?
Beaucoup, bien sûr, beaucoup, parce que quand on arrive à la FEMIS ou à Paris 8, c'est-à-dire qu'on se mesure un peu à ce qu'on pouvait espérer quand on était tout seul dans sa chambre. Et donc, c'est le passage du réel, du rêve à la réalité.
C'est un rite de passage?
Oui, et c'est très douloureux pour la plupart d'entre nous, extrêmement douloureux, parce que tout à coup tout se rétrécit, c'est comme si le cinéma devenait, ce n'est que ça, ce qu'on voit sur l'écran et ce qu'on a fait, c'est pas grand chose quand même. Et donc tout à coup, voilà, on arrive, on tient des discours, on rêve de choses, et puis c'est ça. Donc c'est un passage très douloureux pour beaucoup d'étudiants, pour beaucoup. Là, récemment, un étudiant de Paris 8 m'a envoyé une lettre où il m'explique tous ses doutes et tout ça, et je me suis dit, voilà, ça ne change pas. Mais forcément, à partir du moment où les choses sont aussi puissantes en soi et on a des aspirations si grandes, c'est pas possible que ça ne soit pas douloureux.
Votre personnage, Gonzague, votre personnage de Jean-Noël, on le voit un peu comme un... alors, c'est pas un feu follet, mais enfin, il peut être plus léger que les autres. C'est un peu un trait d'union entre, d'un côté, il y a Étienne et puis Mathias, qui a un personnage assez charismatique, qui ont une très haute idée de ce que doit être le cinéma. Et puis, de l'autre, il y a son copain qui, lui, on va pas dire qu'il est vendu au marché, mais enfin, qui a déjà... les trucs, qui sait déjà quel type...
Le copain de Jean-Noël.
Le copain de Jean-Noël, William, celui, oui, William, qui sait déjà quel type de film faire pour plaire au public. Vous voyez comment votre personnage?
Oui, ben, on en parlait récemment, justement. Oui, il y a un peu cette opposition entre... Enfin, il y a Étienne au milieu, et donc Mathias l'intransigeant d'un côté, et Jean-Noël, moi j'ai envie de dire le solaire de l'autre, et qui choisit, qui à la fin du film, enfin même tout le long du film... préfère, quoi qu'il arrive, rester du côté de l'humain, quoi, et de l'amitié, de faire confiance aux relations du cœur, quitte à abandonner ses exigences de cinéma, peut-être. Mais...
Le film n'est pas moraliste, c'est-à-dire qu'il ne le condamne pas, c'est-à-dire que c'est un choix tout à fait compréhensible. Et le personnage, je crois, est très aimable dans le film, et pas du tout... Il n'est sans doute pas au même endroit que les autres, voilà. Mais c'est un personnage que je trouve, moi, très émouvant, et même si à la fin il va avec ce garçon qui, dans le film, est critiqué par les autres parce que, effectivement, il cherche à plaire avant de partir de lui-même pour faire des films, hein, c'est ça qui est en jeu. Eh bien, voilà, il reste un personnage, je crois, dans l'amitié, dans l'amour, il est dit plusieurs fois qu'il est trop sentimental dans le film. Il est critiqué par celui qui est intransigeant, qui est plutôt, disons, dans les idées, on va
ça,
dire.
Ça, c'est Mathias, hein,
voilà,
incarné
Mathias,
par
oui.
Corentin Fila.
C'est un peu compliqué, effectivement, à expliquer.
Alors, parmi les films très marquants qu'Étienne regarde avec ses amis, il y a La Porte d'Illich de Marlène Koutsieff. Ah. Un extrait de La Porte d'Ilitch, titre français J'ai 20 ans de Marlène Koutsieff, un film russe qui date de 1965. C'est trois jeunes gens qui déambulent dans les rues, un film en noir et blanc, comme le vôtre d'ailleurs, Jean-Paul Sivérac. C'est donc un des films que vous citez, c'était pas le seul, mais c'est un des films que vous citez dans Mes Provinciales. Pourquoi ce film-là ?
Ce film m'a été passé par une étudiante, voilà, qui m'a dit « Vous devriez regarder ce film ».
Vous ne l'aviez jamais vu ?
Jamais. C'était au mois de juin, donc, qui précédait l'écriture du film, qui a commencé au mois de juillet, donc fin 2016. Et donc j'ai regardé le film parce qu'il est sur YouTube et que c'est un film indisponible, en fait. Depuis, j'ai découvert qu'il existait un DVD russe. Voilà, mais sur YouTube, bon, je sais pas pourquoi il est là, et en tout cas, il y avait des sous-titres français, il dure 3 heures, et je l'ai regardé intégralement, et j'ai été absolument ébloui par le film, voilà. Donc d'ailleurs, c'est pas une invention de ma part, ça vient d'une étudiante, hein, donc c'est pas tout à coup moi qui, je ne sais quoi, à 20 ans, je sais pas quoi, dans une cinémathèque obscure, non, c'est là aujourd'hui. Et donc j'ai vu le film, et comme c'est l'histoire de trois garçons, hein, je pense que ça a été un élément, comme on dit, déclencheur de l'écriture du scénario.
Est-ce que c'est un film que vous avez demandé à vos acteurs de regarder ?
Non.
On l'a fait, pardon.
Non, je vous ai dit qu'il existait.
Oui.
Non, mais Gonzague, du coup, est-ce que vous avez vu, vous, ce film-là, ou peut-être d'autres dont il est question, d'ailleurs, dans Mes Provinciales ?
Oui, on l'avait regardé. Alors, j'avoue, ça fait longtemps maintenant, mais... Oui, parce qu'il est sur YouTube, d'ailleurs, je crois, libre accès. Donc, je l'avais regardé avec passion.
Et plus généralement, Jean-Paul, est-ce que vous aviez donné à vos jeunes acteurs une sorte de devoir de vacances, ou en tout cas de film, ou de peut-être aussi de livres ?
Non, pas du tout. En fait, ce que j'ai fait, c'est que dans le travail dramaturgique, c'est qu'on a beaucoup explicité de quoi le film était question. Et j'ai dû parler évidemment des films. J'ai expliqué tout ce qui était ça, tout ce qu'il y avait des sous-entendus, des choses qu'il y avait dans le film, dans le scénario et dans les dialogues. Et d'eux-mêmes, ils sont allés voir. Je leur ai pas demandé de le faire. Mais si on veut prolonger un petit peu, je sais pas si on aura l'occasion de parler de ça, mais par exemple Sophie Verbeek, hein, qui joue Annabelle, donc on a parlé un peu, puisque c'est une militante dans le film, hein, on a parlé un peu du militantisme politique en préparation, et sans que je lui demande, elle est allée passer 2 ou 3 nuits à Notre-Dame-des-Landes. Voilà.
Parce qu'effectivement, son personnage s'apprête à rejoindre une ZAD,
Absolument.
Une zone à défendre.
Mais ça, ils font leur travail. C'est très bien qu'ils l'aient fait tout seul.
Vous avez écrit le scénario en 2 mois, Jean-Paul Sivérac, ai-je lu quelque part ? C'est ça ? Il y avait une sorte d'urgence sur ce film, ou c'était un film que vous imaginiez plus léger en termes d'écriture, de production, de réalisation, avant de vous atteler à un autre projet ?
En fait, j'avais proposé à mon producteur Frédéric Niedermayer de faire un film rapidement qui coûterait pas beaucoup d'argent. J'avais proposé des sujets, il en avait choisi un, et puis 3 jours plus tard, je me suis dit que c'était pas encore le bon sujet, et je ne sais pas comment ça s'est fait, j'ai commencé à penser à celui-là, et je l'ai écrit effectivement très vite, compte tenu de l'ampleur du dialogue, il y a beaucoup de choses, et le premier montage du film faisait 2h45, hein, d'ailleurs on a coupé une demi-heure de dialogue. Donc c'est pour vous dire simplement que c'était, voilà. Mais je l'ai écrit, je l'ai bizarrement écrit vite, et je ne peux m'expliquer ça que parce que je me dis que je devais avoir ça en moi depuis très longtemps et que je l'ignorais complètement, parce que c'est pas possible sinon que ça a pu jaillir de cette façon-là, voilà. Et c'était pas du tout prémédité.
Et il y a eu un point de départ, Jean-Paul Sivérac, que vous pouvez identifier. Vous qui aimez tant vous adosser à des grandes œuvres littéraires, hein, je pense à votre précédent film, Mon ami Victoria.
Non, franchement, je n'y arrive pas. J'arrive pas à savoir ce qui a déterminé ça. Je pense que La Porte d'Ilitch y est pour quelque chose fortement. Puisque quand j'ai commencé à penser à des histoires d'amitié, c'était quand même issu de ma vision de ce film-là, enfin du film de Marlène Koutsieff. Et après. Ça s'est vite, je sais pas comment ça s'est fait dans ma tête, je me suis dit, ben voilà. Et puis, quand même, il y avait quelque chose au fond qui m'a quand même motivé aussi, c'est que je ne connais pas de film avec des étudiants de cinéma. Voilà. Et je me suis dit, c'est quand même étrange au fond personne ne se soit
intéressé.
C'est
rare, même en général, même des films avec des étudiants, enfin aussi
il existe.
Faisant ressentir aussi ces incertitudes de la jeunesse, c'est presque ces coups de cœur amicaux et ces déceptions. Il n'y a pas que, il y a des histoires d'amour, mais aussi une sorte de coup de cœur amical.
Oui, mais vous avez, il existe des films avec des étudiants en lettres, par exemple Les Amitiés Maléfiques d'Emmanuel Bourdieu. Il se trouve que j'ai vu récemment Love Story de Arthur Hiller. Elle est étudiante en musique. Elle fait de la musique classique et ça prend de la place dans le film. Bon, sur les autres étudiants, mais les étudiants de cinéma, non. Alors, j'aimerais que, ou alors s'il y en a, j'aimerais qu'on me le dise et j'aimerais les voir parce que j'en serais évidemment très curieux. Donc c'était aussi ça. Je me suis dit, tiens, s'intéresser à cette population-là, c'est intéressant aussi pour montrer ce que c'est que faire des études de cinéma. Je pense que le film le montre assez fidèlement, enfin, il me semble. Je l'ai présenté même à des étudiants de cinéma américains à New York qui s'y reconnaissaient. J'avais très peur parce que, bon, je sais pas ce qu'ils étudient là-bas et tout ça. Et c'était, donc je pense que le film n'est pas faux. Bon, tous les étudiants de cinéma ne s'y reconnaîtront pas, hein, c'est évident, mais en tout cas, la partie qui peut s'y reconnaître s'y reconnaîtra, à mon avis, parce qu'il y a, il me semble, une forme de justesse. Voilà. Et après, évidemment, c'était l'occasion de parler plus amplement de la politique, de l'amour, de l'amitié. Hein. C'était pas juste sur les étudiants de cinéma.
Et vous l'avez montré aussi à vos étudiants en cinéma, ou vos anciens étudiants?
Quelques-uns.
Vous aviez un peu la boule au ventre avant?
Disons, la population des étudiants est une... Puisque j'ai été étudiant, je sais ce que c'est. Si vous voulez, quand on fait... D'ailleurs, on le voit dans le film. Hein, c'est-à-dire que quand on veut faire des films, on veut faire des films aussi parce que les films qui se font ne sont pas satisfaisants. Donc ça veut dire que si on montre des films à des étudiants, je vais faire quelque chose qui va pas les, je sais, les vont pas les satisfaire. Voilà. Donc j'ai un peu peur de leur montrer. Pour l'instant, ça se passe bien, mais moi, je suis pas sûr qu'étudiant à 22 ans, je aurais été aussi généreux que ceux que j'ai rencontrés pour l'instant sur mon film. Hein. C'est-à-dire, puisque faire des films, c'est faire des films contre d'autres films. Et beaucoup d'autres films. Je crois que ça, on le voit dans le film. Je crois que c'est ça aussi qui est montré. Hein, parce que Mathias s'en prend à tout le cinéma. Pas seulement le cinéma qui veut plaire, mais aussi le cinéma d'auteur. Hein. Il y a une tirade contre les Jérémiades françaises et tout ça. Donc ça se joue pas. Vous voyez, c'est quand même quelque chose d'important. Mais je crois que c'est aussi nécessaire. Quand on veut faire quelque chose, on fait quelque chose contre quelque chose aussi, en même temps.
Vous qui avez une enfance très cinéphile, est-ce que justement c'est ça qui vous a donné envie de faire du cinéma? C'était un manque des films que vous auriez aimé voir et qui n'existaient pas?
Non, c'est d'abord l'amour du cinéma, l'amour des films que je voyais.
Des grands cinéastes qu'on admire, Fassbinder, Minnelli.
Ah oui, bien sûr, moi ça a commencé à 15 ans vraiment ça. C'est-à-dire qu'avant je voyais tous les films sans trop. Et puis je ne connaissais pas les films des auteurs que vous venez de citer. Et donc ça a plutôt commencé à l'âge de 15 ans. C'est très daté, hein. J'ai des souvenirs très précis de ça. Je me suis mis à approfondir le cinéma, enfin disons la connaissance du cinéma. Mais après, quelques années plus tard, évidemment, c'est parce que j'aimais quelque chose dans le cinéma et que je ne le voyais pas dans les films qui sortaient que je voulais en faire. Voilà. Mais c'est ça aussi qui empêche, je pense, des étudiants les films pour ceux qui veulent être. On leur demande d'être ce qu'on voudrait faire, en fait. Voilà. Et puis, avec les années, on apprend à voir un peu plus les films pour ce qu'ils sont. Je parle des films contemporains, parce que dans l'histoire, les films, c'est bon, ils sont comme adoucis, en quelque sorte. Voilà. Ils sont pas rivaux, d'une certaine façon. Ça se joue aussi comme ça. Mais je pense que c'est tout à fait naturel et important, même.
Et on parlait tout à l'heure de Mathias l'intransigeant, d'Étienne qui est quand même aussi un peu sur cette ligne, Jean-Noël, votre personnage, Gonzague, qui est plus indulgent, on va dire. Mais est-ce qu'il y a un peu de vous dans chacun des personnages, Jean-Paul Sivérac, ou est-ce que, je ne sais pas, vous avez prêté à Mathias, par exemple, vos considérations?
Il y a de moi dans tous les personnages du film. Ça a toujours été le cas, mais là, évidemment, peut-être de façon plus... Enfin, quand même, je suis plus proche, parce que je suis plus proche biographiquement des personnages. Mais dans tous les films que j'ai faits, j'ai essayé de me mettre à la place. Enfin, je suis à la place. Je pourrais pas écrire si je faisais pas ça. Et donc, oui, bien sûr, je suis comme Jean-Noël, comme Étienne, comme Mathias.
Gonzague Van Berversles, donc vous jouez Jean-Noël, vous êtes étudiant en cinéma, comment vous êtes arrivé sur ce projet?
Non, pas du tout, je suis pas étudiant, je suis comédien essentiellement de théâtre jusqu'à présent, c'est mes premiers pas au cinéma, et j'ai passé un casting, comme tout le monde, alors que j'avais pas d'agent, mais je l'ai reçu par magie, c'est le premier casting de long métrage que je passais, et j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Paul là-dessus, quoi. Et donc non, mais bon, comme tout comédien de théâtre et acteur en général, le cinéma m'intéresse énormément. Et avec ce film, en plus, depuis un an et demi, ça m'a galvanisé encore plus. D'un amour encore plus profond, quoi.
Qu'est-ce que ça vous a fait découvrir, le cinéma ? Enfin, de tourner dans un film de cinéma ?
Je sais pas. Découvrir...
C'est un rythme différent, j'imagine.
Oui, ça n'a rien à voir.
Une tension différente.
Oui, ça a complètement rien... Oui, ça m'a fait remarquer que ça n'a rien à voir, voilà, avec le théâtre. Il y a des points communs, mais quand même... moi, ce que j'ai apprécié, c'est d'avoir un rôle conséquent, un rôle important, qui participe à la création du film pleinement. On se sent vraiment... Voilà, participer à une œuvre, ça, c'est très agréable. Alors que jusqu'à présent, le cinéma, quand on fait une journée de tournage, c'est vraiment pas intéressant, parce qu'on rencontre les gens, on les voit passer. Là, on participe vraiment comme dans une mise en scène de théâtre, comme à l'ensemble du projet. C'est une vraie aventure humaine, quoi.
Une petite pause musicale, parce qu'on entend beaucoup de musique dans votre film Jean-Paul Sivérac, et surtout beaucoup de Jean-Sébastien Bach. Un peu de Jean-Sébastien Bach, puisque donc le personnage d'Étienne, campé par Andranik Manet dans Mes Provinciales, écoute Bach tout le temps. Alors pourquoi Jean-Paul Sivérac, vos goûts, c'est assez étonnant de voir un jeune homme écouter à ce point Jean-Sébastien Bach, il y a un côté intemporel aussi.
Bon, il se trouve là, d'un point de vue strictement biographique, que j'ai beaucoup écouté Jean-Sébastien Bach et j'ai prêté au personnage ça, mais qui est pour moi dans le film quand même le signe d'une sorte de... Bon, écouter que cette musique signifie une sorte de... Comment dire? C'est un signe de sa pureté, d'une certaine manière, quoi. C'est-à-dire de sa volonté d'aller vers quelque chose de radical, quelque chose vers un cinéma, voilà, exigeant, tout simplement. Et puis, ça, j'avoue aussi que j'ai un film de chevet qui est Les Enfants Terribles, de Jean Cocteau. Enfin, il est signé par Jean-Pierre Melville, mais bon, je pense que c'est un film de Jean Cocteau, et qui est recouvert de Jean-Sébastien Bach, et je trouve qu'il y a... Alors bon, ça n'a rien à voir, le film, mais tout de même, c'est quand même un film de chambre, ce film-là, enfin, qui se passe dans les chambres, des discussions, où on fait circuler les secrets, où les trésors sont les films, un peu comme dans le film de Cocteau. Et bon, pour moi, quand je mets la musique de Bach, je pense aussi à ce film-là.
Donc il y a un côté à la fois très classique dans Mes Provinciales, évidemment, puisqu'il y a la musique de Bach et il y a cette référence aux provinciales. Les Provinciales, le livre de Blaise Pascal, hein, un recueil épistolaire sur une querelle théologique. Le titre de votre film, Jean-Paul Sivérac, fait évidemment aussi appel à l'origine provinciale des personnages, puisque Étienne vient de Lyon, vous, Gonzague, j'en ai clairement fait. Si, c'est dit dans le film. Mais pas que, pourquoi choisir ce titre? Parce qu'on ne parle pas du tout de théologie, on n'est pas du tout au siècle des jansénistes dans votre film.
Non, pas du tout. Mais disons, le livre de Pascal est pris dans le film pour, disons, faire signe vers le problème de rester, d'être, disons, fidèle, de ne pas être sincère, voilà, et de savoir un peu, d'être en accord avec la parole et les actes, hein, c'est ça l'histoire de dans les provinciales. Donc de Pascal. Donc c'est là-dessus que ça porte. Ensuite, mes provinciales, parce que le film est à une sorte de première personne, c'est-à-dire qu'il y a c'est Étienne en quelque sorte. Voilà. Bon, vous l'avez dit après sur les histoires de venir de province. Et puis pour moi, ça évoquait aussi le titre de Rimbaud, Mes petites amoureuses. Voilà. Donc j'aimais bien ce titre-là. J'étais d'ailleurs surpris, je le dis au passage, que Michel et Laurent Pétain, qui sont coproducteurs du film et distributeurs du film, et qui ont été durant tout le projet d'un enthousiasme vraiment qui m'a porté, je craignais qu'ils n'aiment pas ce titre, parce que ce n'est pas un titre qu'on va dire très commercial. Il est bizarre, ce titre-là. Ils adoraient le titre. Voilà, donc il a été gardé.
Et il y a une autre œuvre littéraire à laquelle on pense très fort en voyant votre film, Jean-Paul Sivérac, c'est L'éducation sentimentale de Flaubert.
Oui.
Par son ampleur, par son rythme, oui, par cette espèce de sentiment d'ensemble qu'on a, et puis par la finesse et la richesse des détails. Est-ce que vous y avez pensé ?
J'y ai pensé, mais je ne l'ai pas relu. Pour moi, j'ai lu ça, je crois, en première. Je n'ai jamais relu ce livre, il m'a beaucoup marqué, avec cette fin comme ça, sur un peu désabusé, sur les personnages entre Delaurier, Frédéric Moreau, tout ça. Oui, j'y ai pensé, parce que bon, maintenant il est aussi devenu quasiment proverbial. Le film, on dit roman d'apprentissage ou éducation sentimentale. Donc le film est une éducation sentimentale aussi. Voilà.
Est-ce que vous saviez dès le départ que ce serait un film si noir, mais provincial ? Un peu comme l'éducation sentimentale, qui est à la fois très solaire et puis qui se termine en approchant d'une forme de noirceur terrible. Même dans votre personnage, Gonzague, on disait que c'était un personnage solaire, mais il y a aussi beaucoup d'inquiétude.
Alors, moi, je le vis pas exactement comme quelque chose de noir. Je dirais plutôt que le film reste ouvert sur remet en jeu à la fin du film les choix qui doivent être faits dans l'existence. Être dans la vie ou être dans la mort, mais enfin, dans la mort symbolique. C'est-à-dire, vivre sans vivre, quoi. Voilà. Après une année passée, enfin, on assiste à une année, hein, quasiment dans la vie d'Étienne. Donc à l'université, 2 ans passent et il y a un épilogue. Et dans l'épilogue, les choses se rejouent encore une fois. Voilà, c'est à qu'il a. On ne sait pas exactement.
Ça reste ouvert. Hein.
Je pense que ça reste ouvert. Alors c'est assez cruel parce que évidemment, ça essaie de pas mentir, disons, sur la destinée, sur les choix qu'on fait dans l'existence. Est-ce qu'on a la hauteur de ce qu'on aimerait être ? Est-ce qu'on renonce pas trop tôt ? Comment on renonce aussi aux choses ? Mais bon, je le vis pas comme un truc noir, moi.
Vous, vos 20 ans, vous les avez vécus comme ça, comme une sorte de sas.
Ah, oui,
la maturation est complètement... Enfin, il y a une espèce d'accélération formidable.
Moi, j'ai eu de la chance, c'est-à-dire que j'ai effectivement, il y a vous avez raison, il y a eu une grande accélération au moment de la FEMIS, c'est-à-dire tout à coup, ça a accéléré l'existence, quoi, d'être là avec tous mes amis, dont vous avez cité les noms tout à l'heure, et c'était très fort. Et puis, ça a été très douloureux, comme je le disais aussi, pendant 4 ans à la FEMIS. Et j'ai eu de la chance parce que mon film de fin d'études, alors que j'ai à peu près fait 4 années avec que des mauvais films, des films vraiment pas montrables, mon film de fin d'études a eu un peu de succès. Et surtout, m'a permis de rencontrer mon producteur historique, Philippe Martin, avec lequel j'ai fait 8 films. Qui m'a protégé pendant 8 ans et qui m'a permis de faire tous ces films qui n'étaient pas faciles à faire du tout. Et donc, je pense que si j'avais raté mon film de fin d'études, je dis pas qu'il est très réussi, mais si je l'avais vraiment raté.
Il s'appelle comment ?
Il s'appelle La vie selon Luc. Si je l'avais vraiment raté, j'avais pas eu d'encouragement à ce moment-là, je suis pas sûr que j'aurais continué à faire du cinéma. Ou peut-être, j'aurais mis 5-10 ans, peut-être. Voilà. Parce que c'est important à un moment donné d'être encouragé après ces années douloureuses où on ne sait pas ce qu'on doit faire dans la vie, quoi.
Eh bien, heureusement que vous l'avez réussi. On est bien content de voir vos films et notamment et surtout Mes provinciales. Jean-Paul Sivérac, merci. Gonzague Van Berwesles, merci. Mes provinciales est un film lumineux, vraiment merveilleux pour tous les amoureux du cinéma et donc sera en salle mercredi prochain. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Le Quéré
et Sophie Torlotin. À la réalisation, Fanny Renard.
On se retrouve samedi prochain, même heure, même cinéma, pour une émission spéciale consacrée à mai 68 et au cinéma. D'ici là, bonne semaine à tous.
Tous les cinémas du monde.